France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Les lanceurs d'alerte souvent se cachent ou restent anonymes longtemps. Frances Haugen, elle, au contraire, est en pleine lumière. Elle a témoigné devant les parlementaires américains, devant les Britanniques. Elle est passée par Lisbonne, par l'Allemagne. Elle est à Bruxelles ce lundi. Elle sera en France mercredi. Elle a fait de multiples émissions de télé aux États-Unis. Frances Haugen a travaillé pour Facebook moins de 2 ans, chargée de s'occuper justement de désinformation. Et elle est partie avec des milliers de documents internes sous le bras et la certitude que Facebook n'en fait jamais assez ou ne fait quasiment rien pour contrôler les effets néfastes des fameux algorithmes et au contraire ce repaît des clics innombrables générés en boucle vers les messages de haine. Revient donc la question déjà maintes fois posée de réguler Facebook, qui au passage ne s'appelle plus Facebook mais Meta, mais honnêtement c'est toujours pas rentré dans les têtes, pas plus que la métaphore annoncée par ce nouveau nom n'a réussi à convaincre pour l'instant grand monde. Bref, comment réguler sans censurer, parce que ça aussi c'est une vraie question. Est-ce qu'un algorithme peut être vertueux? Est-ce qu'on peut suspendre ces algorithmes? Est-ce que la voie à explorer c'est le démantèlement? Facebook, c'est aussi Instagram, c'est WhatsApp. Est-ce que ça changerait vraiment quelque chose en termes de modération? Est-ce qu'on peut contraindre? C'est le credo des Européens. Voire imaginer une sorte de CSA géant au-dessus des réseaux sociaux. En voilà des questions soulevées. Et aussi une autre, tiens, pour la route, quand on accuse Facebook de nuire à la démocratie, est-ce qu'on est en train de tirer sur le responsable ou sur le messager? Vous avez 2 heures, la discussion est partie, c'est le téléphone sonne et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et le premier, c'est vous, Jean-Pierre. Bonsoir, bienvenue.
Bonsoir Fabienne, et merci de prendre mon appel.
On vous écoute, Jean-Pierre.
Oui, bien écoutez, moi, en écoutant, en plus, vous avez annoncé plein de questions là qui sont intéressantes. En écoutant votre émission, moi, je pense que le premier régulateur de Facebook, c'est l'utilisateur lui-même. Moi, j'ai 66 ans, je suis grand-père, j'ai Facebook. Je mets très peu d'informations, mais j'y vais pourquoi ? J'y vais notamment parce que, comme l'a écrit un sociologue, Gérald Brenner, dans La démocratie des crédules, c'est vrai que si on y prend garde, c'est un outil qui, malheureusement, parfois induit davantage de messages négatifs, voire de bulles un peu hostiles et complotistes qu'autre chose. Donc je pense que le premier régulateur, c'est la personne qui l'utilise. Ensuite, je pense que c'est un problème d'éducation, qui, vu l'importance des réseaux sociaux qui deviennent vraiment presque un organe de presse bis maintenant, je pense que c'est important d'inclure ça dans l'éducation des enfants à l'école, dans la famille bien sûr, mais à l'école. Mais je pense aussi que pour ne pas toujours courir après le problème, de la même façon que pour les progrès scientifiques, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui à la COP26, je pense que c'est important de mettre de la loi, de mettre de l'éthique avant que les problèmes ne surviennent, et tant mieux s'il y a des lanceurs d'alerte qui parfois se faufilent et arrivent à révéler certaines choses, mais c'est a posteriori, quoi, si vous voulez. Donc je pense que l'addition de ces différentes postures pourrait peut-être permettre de réguler un peu mieux, en tout cas, mais ça commence par soi-même, et je pense que les émissions de service public comme la vôtre, et à la télévision aussi, devraient intégrer ça peut-être davantage dans leur programme, avec des émissions à grande écoute, où les citoyens pourraient être sensibilisés et partager un petit peu ce qui leur pose souci, mais aussi comment être plus à l'aise avec ces réseaux sociaux qui embolisent beaucoup la vie de chacun. Quoi.
Merci beaucoup Jean-Pierre, vous êtes une jolie entrée en matière, on va essayer d'y contribuer nous tous ce soir autour de cette table au téléphone sonne pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Benoît Thiolin est là, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur de Cbrain France, ancien président du Conseil national du numérique. Éric Botorel est avec nous également, bonsoir Monsieur Botorel.
Bonsoir.
Vous êtes député La République En Marche des Côtes d'Armor, vous êtes membre de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale et vous allez donc auditionner la lanceuse d'alerte Frances Haugen mercredi. Il y a 2 choses quand même qui me semblent intéressantes vraiment dans ce que nous dit Jean-Pierre. D'abord, il dit le meilleur régulateur c'est nous. Alors c'est vrai, charge pour nous effectivement de savoir sur quoi on clique, mais est-ce qu'on a vraiment la main, Benoît Thiolin? Est-ce qu'on a toujours la main?
Alors oui, Jean-Pierre a raison, c'est-à-dire que oui, on est trop dépendant de toutes ces plateformes. Il y en a même d'ailleurs, il le suggère presque, qui préfère le quitter au fond. Mm-hmm. Mais donc de ce point de vue-là, il a un peu raison. Ensuite, le problème, c'est que c'est pas suffisant. C'est pas suffisant à mon avis pour 2 raisons. D'abord, parce que tout simplement les 15 ans qu'on a maintenant de recul nous permettent de constater qu'aujourd'hui, ils sont 3 milliards d'utilisateurs sur Facebook, ça a plutôt tendance à augmenter qu'à baisser. Alors et deuxièmement, la question en fait qui est posée aujourd'hui à Facebook, en réalité, elle est probablement paroxystique. hein, sur Facebook. Mais en réalité, elle concerne à peu près n'importe quel type de plateforme numérique aujourd'hui qui gère des masses de données considérables et qui utilise en gros des algorithmes, c'est-à-dire de l'intelligence artificielle pour trier les données et pour vous pousser tel contenu plutôt que tel autre, c'est-à-dire tel article que vous allez lire, telle vidéo que vous allez consulter, tel produit que vous allez acheter. Et donc cette question, elle est beaucoup plus générale. Et si, évidemment, il faut bien sûr essayer de conscientiser les gens, leur faire prendre vraiment conscience que il faut qu'ils fassent attention, qu'il faut qu'ils aient un rapport distant à tout ça, même si effectivement, oui aussi, il faut que dans l'éducation nationale, sur le service public, on contribue à éclairer les gens pour les mettre en garde, leur dire faites attention, paramétrez bien, etc. Ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas, il faut ouvrir la boîte noire.
Alors, ouvrir la boîte noire, ça veut dire essayer de gratter ce qu'il y a à l'intérieur. Moi, ce que je retiens de ce qu'a dit Frances Haugen à Bruxelles cet après-midi, c'est notamment que tout ça, ça va être extrêmement compliqué parce que, au fond, personne ne sait comment tout ça marche. Il y a que ceux qui les créent qui savent comment ces algorithmes marchent. Donc, ça veut dire qu'il faut que ce soit à l'intérieur, que tout ce qui peut être extérieur, est-ce que ça a du sens? Et c'est aussi une question qui va intéresser le législateur dans un tout petit instant. Juste là-dessus, Benoît Thiolin, est-ce qu'on, pour rentrer dans la boîte noire, encore une fois, faut avoir les clés. Et qui a les clés, à part les gens de Facebook?
Alors, la question même se pose de savoir si eux-mêmes, hein, vous savez que c'est une des choses d'ailleurs que Frances Haugen a révélé.
Exactement.
C'est
dépasser
que
eux-mêmes.
Elle a même des interrogations sur le fait que, en gros, ce qu'il faut imaginer, si vous voulez, c'est que ce code informatique, ces algorithmes, ils sont écrits par des dizaines, des centaines et milliers de gens depuis des années. Mmh. Et donc, il y a un moment donné, une perte de savoir. On ne sait pas très bien quelles sont les conséquences quand on change telle chose ou quand on ajoute une nouvelle règle. Pour vous donner une image qu'on comprend davantage, qui est un peu plus dans notre quotidien, en tout cas dans notre quotidien politique, on parle souvent du fait qu'il y a trop de lois qui sont votées. Mmh. Bah, quand vous votez beaucoup, beaucoup de lois, à la fin, quand vous en modifiez une, vous ne savez plus très bien quelles sont les conséquences sur les autres. Bah, dans le code informatique, c'est exactement la même chose. Donc, oui, on peut déjà se poser la question de savoir, est-ce qu'ils ont encore la maîtrise? Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut ouvrir la boîte noire. Alors, ouvrir la boîte noire, ça ne veut pas dire forcément envoyer des ingénieurs chez Google. On peut déjà faire ce qu'on appelle de la rétro-ingénierie, c'est-à-dire qu'on est capable de faire du testing. C'est-à-dire, en réalité, de mesurer. D'une certaine manière, pour reprendre l'image que vous preniez tout à l'heure, ou que Jean-Pierre, dont je crois Jean-Pierre parlait, celle d'un super CSA. Le CSA, pour pouvoir vous réguler, vous, qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas ici à regarder en amont ce que qui vous invitez tous les jours en amont dans votre salle de rédaction. Mais en revanche, il y a des gens qui, enfin, avant il y avait des gens avec des chronomètres, puis aujourd'hui bah il y a des ordinateurs qui mesurent en permanence qui vous invitez, est-ce que vous êtes équilibré, pluriel dans vos choix, etc., etc. Ben ce travail que fait le CSA avec des spécialistes, avec des outils, etc. Il faut le faire dans le champ des plateformes, c'est-à-dire mesurer ce que fait Facebook avec ses algorithmes.
Alors on va y revenir effectivement cette espèce de je sais pas si on appelle ça une espèce de supra-autorité ou quelque chose qui serait au-dessus des réseaux sociaux. Dans la question de Jean-Pierre, Éric Botorel, il faut mettre de la loi à l'intérieur. Mais quand on entend parler, Benoît Thiolin, de cette boîte noire, où est-ce qu'on la met, la loi, en fait? À quel moment ça marche, surtout? Parce qu'on peut la mettre n'importe où, mais à quel moment ça marche?
La loi, on va la mettre partout où les effets néfastes dont vous avez parlé dans votre propos introductif agit. C'est-à-dire que moi, je crois que nous sommes dans un moment de notre histoire où il est illusoire d'imaginer qu'une loi cadre va répondre à tous les enjeux du numérique. Ce soir, nous consacrons une partie de la soirée au sujet de la haine en ligne. Mais aussi, pourquoi pas, des fake news. Enfin, ce dont parle Frances va bien au-delà de simplement la haine en ligne. Mais si vous faites l'inventaire de tous les sujets qui ont surgi dans l'actualité numérique ces derniers mois, vous pouvez rajouter la crypto-monnaie, vous rajoutez la blockchain, vous rajoutez les enjeux d'IA. Bref, imaginez qu'on pourrait, au travers d'une seule et même loi, traiter tous les sujets en matière de régulation, d'équilibre à trouver sur ces différents sujets. C'est totalement impossible. C'est pour ça que, finalement, les initiatives diverses qui ont été portées à l'échelon national ou européen sont de nature pour des éléments systémiques, typiquement la protection des données personnelles, mais pourquoi pas la régulation au travers du DSA des plateformes.
Vous allez nous expliquer ce que c'est le DSA et le DMA aussi, mais vous avez raison, c'est nous qui avons inventé la RGPD, par exemple, en Europe, donc la protection des données personnelles, et visiblement, y compris les Américains, regardent ça avec beaucoup d'intérêt en disant, après tout, on peut faire la même chose. Donc qu'est-ce qu'on peut inventer, nous, qui nous permettra de modérer, de réguler un peu mieux quelque chose d'aussi tentaculaire que Facebook?
C'est la troisième voie européenne. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, mais c'est certainement pas le Far West américain et c'est pas le Big Brother chinois. On a inventé une troisième voie du numérique qui se bâtit au travers d'outils de régulation, d'éthique, de pratiques qui correspondent à des standards d'éthique, ou en tout cas l'idée qu'on s'en fait, et puis d'écrire dans le droit ce qui est caractérisé comme étant illicite. Enfin, le monde des internets ne doit pas être une zone de non-droit. Et quand le droit n'a pas eu le temps de qualifier que tel ou tel type d'infraction, qui trouve une traduction parce qu'elle est commise dans la rue et elle est poursuivie. Comment dire, on peut la poursuivre devant un tribunal parce qu'elle est faite dans la rue, mais qu'on ne peut pas la qualifier pour différentes raisons. Et on ne va pas rentrer ici dans les nuances technologiques qui font parfois la complexité d'établir la preuve d'une infraction. Mais l'enjeu, c'est bien évidemment de mettre les internets à un niveau de responsabilité qui soit de même niveau que celui qui occupe finalement notre capacité à vivre ensemble, à être en désaccord, les exprimer, mais sans recourir à la violence.
Alors, vous avez, Eric Botorel, fait la différence, ou en tout cas, listé un certain nombre de choses, la haine en ligne et les fake news. Et moi, je trouve que l'exemple est bon là-dessus. Quand on parle de haine en ligne, par exemple, et que si j'ai un propos parfaitement raciste, antisémite, etc., ce sera assez vite détecté, ce propos sera enlevé, et potentiellement, je peux être condamné. Mais si j'écris extrêmement poliment à la Donald Trump, évidemment que j'ai gagné les élections présidentielles, et d'ailleurs tout ce que vous pourrez lire à côté n'est que fadaise. Si j'écris extrêmement poliment, tout le monde sait que le vaccin fait pousser un troisième œil, etc., etc.
Ce qui est faux, hein.
Non, on est d'accord. comment on fait pour passer au travers de ça, en fait?
Ah oui, c'est vrai que c'est compliqué. Alors, il y a quand même une question qui se pose, c'est-à-dire que pour l'instant, pendant très longtemps, on a situé uniquement ce débat dans le champ de ce qu'on appelle la liberté d'expression, hein, et qui en plus est beaucoup plus ouvert en Europe, c'est beaucoup plus régulé.
Absolument, c'est pour ça que les Américains ont échoué déjà, d'ailleurs, parce que républicains et démocrates sont pas d'accord.
Donc, exactement. Donc, on a un régime quand même plus encadré en Europe, enfin, qui se fracasse quand même sur la difficulté qu'on a à faire entrer le juge dans la plateforme, parce que bon, on a un nombre de juges limité, et donc la réalité c'est qu'en fait, au quotidien, qui régule, qui fait en sorte que vous qui m'avez insulté, vous allez un peu le payer sur Facebook, ça va rarement être un juge, et la plupart du temps ça va être un algorithme qui a été un peu programmé et qui va marcher plus ou moins bien. Donc la question qui se pose aujourd'hui, qui est énormément en débat aux États-Unis, c'est de se dire que c'est pas parce que on vous donne la liberté d'expression, hein, ils ont cette expression, ils disent « freedom of speech is not freedom of reach ». C'est-à-dire que Facebook vous donne beaucoup plus qu'un moyen de vous exprimer. Et on pourrait dire de Twitter et de YouTube et autres, il vous donne un moyen de toucher potentiellement des milliers de personnes. Et c'est là où il faut pas, on a beaucoup confondu l'un et l'autre. Que vous puissiez poster un contenu, on va dire, qui soit ambigu, parce que s'il est pas ambigu, il risque d'être assez vite filtré, hein. Il sera signalé, mais si c'est un propos ambigu, c'est déjà un peu plus compliqué. Mais là, la question se pose de savoir, est-ce qu'on doit vous garantir absolument que vous puissiez vous exprimer comme ça à des millions de personnes? La réponse est certainement non. Et enfin, je pense que le gros débat qu'il y a derrière tout ça, c'est que pour l'instant, parce que notre système judiciaire, sauf dans des cas extrêmes, hein, parce que si je suis une personnalité publique et que je vous insulte ou que je tiens des propos complètement diffamatoires, je vais être traîné devant un juge, hein, et je vais le payer. Par contre, ça va mettre un peu de temps, hein, oui, c'est rarement très rapide.
Ça mettra du temps, mais c'est bien de savoir que on le fait, ça marche, et des gens sont condamnés, c'est
absolument
toujours bon à savoir.
Mais pour tous les autres, c'est-à-dire en gros pour des millions, parce qu'en fait, des conversations, il y a 3 milliards de gens sur Facebook, pour ne prendre que cet exemple. Donc, il y a des milliards d'informations tous les jours qui circulent. Donc, aucun système judiciaire au monde n'est capable, en réalité, même si c'était 0,01% de ces contenus qui posaient problème, de pouvoir le judiciariser complètement. Donc, Facebook, face à ça, en réalité, a mis ses propres moyens de régulation par des algorithmes, mais aussi avec une espèce de... On a parlé de cour suprême de Facebook. On voit qu'eux-mêmes sont très gênés de tout ça et essaient d'inventer leur propre régulation.
Allez-y.
C'est un exercice qui n'est pas simple. Alors, on a fait des choses, on a créé le parquet numérique, on a pris des dispositions au travers de la loi qui était portée par ma collègue Laetitia Avia, qu'on a mis dans les principes républicains. Bien, on a adapté un certain nombre de nos dispositifs sur la judiciarisation. Moi, je vais juste traduire ce que j'ai pu échanger avec Richard Malka à une époque. Richard disait, en fait, ce qu'il nous faudrait, c'est un représentant légal. Le jour où ils auront usé leur fond de culotte sur les tribunaux français parce qu'on les aura mis devant le tribunal, c'est-à-dire qu'il y aura un type qui correspondra pour Facebook, un pour Twitter, etc., et qui devra rendre des comptes par rapport à notre niveau de droit sur la façon dont on apprécie ce qui commence comme étant un discours haineux et ce qui n'est pas un discours haineux, ce qui, dans l'exercice du quotidien, même sans parler d'Internet, est extrêmement complexe. Hein. L'arrêt Le Pen-Collard n'est pas simple. Hein. Le fait de publier une photo terreau, c'est pas aujourd'hui condamné. Le fait de faire une blague sur Patrick Bruel en disant il faudra en faire une fournée, ça n'est pas condamné. Donc il faut ne pas avoir à l'esprit que tout serait correctement réglé et on aurait tous les sujets qui seraient correctement réglés in real life, comme on dit, dans la vraie vie, et que par ailleurs, Internet serait la dernière zone de non-droit. Non, elle s'inspire aussi des jurisprudences qui naissent de la façon dont on confronte finalement l'idée qu'on se fait que ceci est illicite ou cela ne l'est pas. Et parfois, il peut y avoir de la déception parce qu'on imagine que assez spontanément, si je publie la photo d'une scène de décapitation de Daesh, même sans en faire un commentaire, je suis en train de faire l'apologie du trophée du bro. Et en l'espèce, c'est pas le cas. Mais la justice a dit que ça n'était pas le cas.
Réguler, d'accord, mais vous disiez tout à l'heure 3 milliards et demi d'ailleurs même d'utilisateurs. Il peut pas y avoir des modérateurs partout. Il peut y en avoir un certain nombre chez nous, pour nous, et encore, personne ne peut lire autant de commentaires. Je sais pas combien il y a de modérateurs. Je dis n'importe quoi aux Philippines, par exemple, qui est un pays de très nombreux habitants. J'imagine qu'il doit y avoir, je sais même pas si ça se compte sur le doigt de la main en fait, les modérateurs dans ce genre de pays-là autour des statuts Facebook. C'est là que ça paraît gigantesque et en fait infaisable, si ce n'est effectivement chacun ayant sa propre législation, chacun dans son pays, ou peut-être nous à l'échelle de notre continent, autour de cette énormité de réseau social.
Oui, et puis ça montre en réalité le fait que, quand bien même on voudrait judiciariser et qu'on le fasse sur les cas les plus problématiques, quand bien même on modérerait par des humains derrière, la réalité c'est que des milliards d'informations échangées tous les jours ne pourront jamais, en réalité, être traitées uniquement par, on va dire, des organisations ou par des humains. Ça n'est pas possible. Donc ça veut dire que ça se fait forcément d'un point de vue numérique avec des algorithmes. Et là, c'est l'angle mort, en fait, de nos régulations aujourd'hui. Parce que tout d'un coup, un Mark Zuckerberg va quand même prendre conscience au lendemain de l'élection de Trump que, oui, Facebook a quand même plutôt favorisé un certain nombre d'informations qui ont pu avoir un impact positif pour l'élection de Trump. Donc il va changer ses algorithmes en se disant on va essayer de faire en sorte que ce soit plus des échanges horizontaux entre les gens et moins des informations politiques qui y circulent. Et puis tout d'un coup il se rend compte que ça a d'autres effets. Et enfin, et c'est ça que montre Frances Haugen, c'est qu'elle a même des doutes, elle a deux doutes en fait qui doivent nous interpeller, qui est têtu mais sur lequel elle met beaucoup l'accent. Elle a deux doutes. Le premier, c'est le fait précisément qu'ils aient encore la maîtrise. Oui, est-ce que la machine n'est pas devenue à ce point énorme? Et là ça pose une question, peut-être qu'il faut découper, encadrer, c'est pas exactement. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, au fond, c'est est-ce que, face à ce numérique, on va être capable, au fond, d'inventer de nouvelles règles, hein ? Et c'est ça le sujet qu'elle pose, et qui, à mon avis, reste devant nous, parce qu'il va falloir qu'on innove.
Il y a un autre sujet, c'est finalement, il faut le faire, réguler, aseptiser, faire en sorte qu'effectivement les discours qui se tiennent sur ces plateformes du numérique, qui sont des espaces privés des internets, correspondent aux codes qui sont les nôtres en matière de déontologie, d'éthique, etc. Mais ne nions pas aujourd'hui les mouvements qui s'opèrent sur des plateformes alternatives, des valeurs refuges de la haine, les VK, les Minds, les Gab, etc., qui naissent et qui voient aujourd'hui percoler une partie de la haine suprémaciste, racialiste, masculiniste, etc. Et donc, il s'agit bien évidemment d'avoir des ambitions extrêmement fortes sur la capacité qu'on a de réguler ces grandes plateformes qui ont un impact systémique, et je rajouterais volontiers que quand les plateformes décident de couper le sifflet de Donald Trump, alors il manque pas une voix pour dire que c'est une entaille à la démocratie. Quand l'État essaye de propulser, ou le gouvernement essaye de propulser des informations débunkées, on dit mais c'est pas son job, c'est pas à lui de le faire. Je pense, et là je reviens sur la proposition de Jean-Pierre, puisqu'en plus quand c'est du Gérald Brunner, ça me va bien. Je pense que le fait d'appuyer ça sur plusieurs pieds en disant il y a du droit, il y a de la loi, il y a les régulations, et en même temps il y a de la participation citoyenne, des actions associatives qui permettent de faire de la modération. Moi, je trouve qu'effectivement, c'est la complétude ou la complémentarité de ces dispositifs qui nous permettra d'avoir quelque chose de plus sain.
Alors, Éric Botorel, vous avez parlé d'autres réseaux sociaux et peut-être même d'endroits où on est capable de se planquer. Aujourd'hui, je voudrais qu'on écoute Anne. Bonsoir, Anne.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, j'ai une question à ce sujet. Alors, auparavant, je me permets de vous faire une petite demande, France Inter. J'adore vos émissions. Je vous écoute beaucoup, mais là, je suis vraiment gênée qu'on n'entende jamais de médecins et d'épidémiologistes qui tirent la sonnette d'alarme sur les effets secondaires des vaccins et l'inefficacité des vaccins.
Ah bah, écoutez,
On ne les entend jamais. Je trouve que ça fait vraiment propagande. Excusez-moi de le dire, mais j'adore vos émissions, mais là, moi, ça fait
des émissions. Alors, sur ce sujet, on en a fait. Excusez-moi Anne, pardon, des émissions sur ce sujet, on en a fait plus qu'autant, si je puis dire. Il y a une autre émission Covid demain, donc vous pourrez éventuellement y participer, mais toujours en essayant
oui,
évidemment.
Ça, bah, j'y participerai. Mais s'il vous plaît.
En suivant aussi ce que dit la science, Anne, si je puis me permettre, en suivant aussi ce que dit la science, et comme je le dis souvent, en matière de science, il n'y a pas d'opinion, il n'y a que des faits. Maintenant, j'écoute votre question avec grand plaisir sur Facebook.
Alors il faut
allez-y.
Aussi qu'il y a des études scientifiques, ça serait bien. Des faits
voilà.
scientifiques,
allez-y,
ça serait
Anne,
bien.
S'il vous plaît.
Alors ma question, c'est justement si on se passe de Facebook, si je ne sais pas si ça peut être du jour au lendemain, mais si on dit non à Facebook, est-ce qu'il y a une autre plateforme ou un autre site qui pourrait remplacer, qui proposerait les mêmes fonctions?
Merci Anne, une question de Guillaume sur franceinter.fr qui dit peu ou prou la même chose. Est-ce que la solution ne serait pas de favoriser d'autres alternatives donc, ou est-ce que ce serait d'avoir plein de petits acteurs qui auraient moins de pouvoir? Le problème, c'est que ça existe bien sûr, mais notre gouvernement ne les met pas en avant. Je ne sais pas si c'est le gouvernement ou pas qui doit mettre ce genre de truc en avant, probablement pas, mais en tout cas essayer de trouver des alternatives, ça existe,
Alternatives,
Benoît Thuelin. Le problème, c'est qu'un réseau social, sa vie et sa mort assez vite, hein, au fond.
Alors,
sauf quand on est Facebook, Twitter,
Facebook, ça marche
ou
plutôt
Instagram,
pas mal.
Voilà.
Mais je vous dirais que Donald Trump, c'est ce qu'il est en train de faire.
J'allais exactement poursuivre
donc,
avec ça. C'est pas forcément une bonne nouvelle.
Alors, comment dire, on peut avoir une lecture un peu ambivalente de ce phénomène. C'est-à-dire que oui, pour des communautés qui, au fond, sont déjà structurées, organisées, les fans de Donald Trump, ils existent déjà, basculer hors des grandes plateformes les plus connues est quelque chose qui est possible. Bon. Mais le problème quand même structurel, donc l'idée de vouloir morceler au fond le débat public avec autant finalement de réseaux sociaux par communauté, ça peut effectivement avoir un bon effet. Mais ça pose aussi un autre problème, c'est qu'en fait, la puissance de Donald Trump, elle s'est constituée parce qu'il était sur un réseau social où il y avait 200 millions d'Américains. Mmh. Et donc s'il avait été dans son petit coin, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Donc on voit bien que c'est quand même une difficulté. Quand vous êtes structuré, pourquoi pas, mais la réalité c'est que leur intérêt est quand même de pouvoir convertir des gens. Quand on veut radicaliser des jeunes sur Internet, sur les questions islamistes, c'est évidemment plus simple de les trouver là où ils sont tous que de créer une petite plateforme communautaire. Donc, je suis pas sûr que ça suffise.
Et quand on parle de démanteler, d'ailleurs, parce que ça fait partie des choses qui sont mises sur la table, moi, je comprends pas très bien ce que ça veut dire réellement démanteler. D'abord, si on démantèle ce qui appartient à Facebook, donc Instagram, WhatsApp et Facebook, les trois à la fois, ça changera rien au problème de Facebook de toute façon et à la modération aujourd'hui. Qu'est-ce que ça changerait si on essayait de démanteler Éric Botorel?
Mais c'est un truc qui est censé nous amuser et sacrifier l'Europe sur l'autel des hésitations américaines. Enfin, je pense que personne n'est naïf à l'idée de penser que l'administration américaine va finir un jour par décider de démanteler les pépites qui sont les pépites du numérique et de la technologie.
Enfin, elle a fait sur Rockefeller, elle a fait sur
AT&T.
Il y a des précédents.
Soyons honnêtes, à ce stade, je ne vois pas se dessiner le démantèlement de Facebook et encore moins d'autres acteurs. Voilà.
Je pense que le débat ne se pose pas de la même manière, de toute façon, pour tous ces acteurs en fait, qui ont à la fois des choses très communes, mais aussi très différentes. Sur Facebook, en fait, le démanteler de WhatsApp, et pourquoi pas d'ailleurs.
Mais ça changerait pas. Qu'est-ce que ça changerait?
Alors, ça permettrait de freiner leur croissance interne, le fait qu'ils prennent les données de l'un pour le mettre à l'autre, de pousser. Bon, voilà. C'est ça peut avoir un effet. Mais sur le débat dont on parle là, ça aurait assez peu d'effet. Et chez Google, ça aurait d'autres effets, parce que quand même, on a bon. Mais je doute, et là où je vous rejoins, c'est que je pense qu'il faut qu'on fasse attention, parce que le débat américain sur le démantèlement, qui est d'ailleurs pas un débat européen, hein, puisque nous on veut réguler.
Nous on veut contraindre.
Exactement. Ouais. Je pense qu'il doit pas être d'une certaine manière un chiffon rouge pour nous éviter de penser comment en réalité faire avec ces plateformes qui nous rendent quand même des services. S'il y a 3 milliards de gens qui vont quasiment tous les jours, en tout cas quelques fois par mois, c'est que ça leur plaît. S'ils vont sur des plateformes pour discuter, pour acheter, pour trouver une amie ou autre, c'est bien parce qu'ils y trouvent un intérêt. Donc le sujet il est plutôt de partir de ça, et à mon avis c'est pas prêt complètement de changer, même si on devrait effectivement, votre auditeur tout à l'heure avait raison, peut-être les utiliser bien moins. Mais en revanche, c'est comment est-ce qu'on fait pour mieux les encadrer? Comment est-ce qu'on fait pour ouvrir ces boîtes noires et leur fixer des règles qui, à mon avis, doivent encadrer même les règles des algorithmes? Alors, là où c'est un peu inquiétant, c'est ce que Francis Hogan nous apprend, c'est que en tout cas chez Facebook, ils ont même peut-être perdu la maîtrise de leurs algorithmes. Et là, la question en fait de l'effet de masse se pose.
Oui, mais on s'en fiche un peu. Enfin, si je puis me permettre, d'abord une chose, c'est que si on veut faire du réseau social français, il y a Waller de Thomas Forêt. Vous pouvez l'essayer. Hein, c'est disponible sur les stores. Et l'autre chose, c'est que moi, je suis moins soucieux du non-contrôle ou de difficulté à pouvoir faire de l'audit précis des algorithmes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les effets que ça produit. Et à la limite, c'est l'affaire de l'entreprise derrière, d'apporter les correctifs sur ce qui est le cœur nucléaire de son dispositif. Finalement, l'algorithme, ça n'est rien d'autre que Facebook. Facebook n'existe que parce qu'il y a des algorithmes. Le sujet, c'est que si je vois des effets néfastes se produire, ce que je demande, c'est pas d'aller voir le moteur à l'intérieur pour lui demander précisément d'aller changer telle pièce ou telle autre. Ce que je veux, c'est que la voiture roule à telle vitesse maximum et qu'elle ne produise pas l'effet qu'elle a.
Alors moi, je suis en désaccord, mais on a le droit, essayer peut-être d'être un peu concret. On a aujourd'hui sur Facebook, vous avez en général plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de personnes qui sont, entre guillemets, vos amis. Ils publient des contenus. Si on prend la totalité des contenus qu'ils produisent tous les jours, cette masse de entre 50 et 150 personnes en moyenne, c'est plus de contenu que vous ne pouvez lire ou même voir défiler sur ce qu'on appelle votre mur. Bon, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Facebook va faire un tri et va décider qu'il va vous pousser plutôt une information sur la santé parce que vous intéresse ou plutôt une autre parce que c'est plutôt ça dont il présuppose que ça va provoquer chez vous une audience qui est plus longue. Parce qu'il ne faut pas oublier ça, et c'est ça que Frances Haugen, elle montre aussi de manière très intéressante, c'est que tout ça quand même est lié au modèle d'affaires de ces plateformes. Elles ont envie que vous passiez beaucoup de temps sur elles. Et c'est là la contradiction qu'elle pointe.
Bien
c'est
sûr.
Qu'en fait, à chaque fois qu'ils changent l'algorithme pour faire en sorte que vous regardiez un peu moins de contenu, par exemple, on va dire fake news, de fausses informations, etc., et bien en fait, ils se rendent compte que souvent, ça fait baisser leur audience.
Donc,
et c'est ça le problème structurel.
Exactement. Plus on est dans les contenus haineux, plus ça génère de clics, et plus ils sont contents que ça génère de clics, et effectivement, au bout du compte, on se mord la queue. Donc pour sortir de ce cercle-là, moi je comprends pas bien comment on sort du cercle. Et pour reprendre d'ailleurs la métaphore Éric Botorel de la voiture, c'est vrai qu'on n'a pas envie de savoir comment fonctionne le moteur, après tout, mais moi j'ai quand même envie de savoir pourquoi j'ai foncé dans le mur.
Ah, mais
donc à un moment, il faut bien que je puisse être capable de savoir un petit peu comment ça fonctionne. Tout
c'est
ça.
Précisément ça, mais comme on l'a introduit tout à l'heure, qu'on est à un niveau de maturité technologique qui fait qu'aujourd'hui, il faut, en toute honnêteté, dire qu'à certains endroits, il y a des sorties ou des processus de sortie d'algorithmes dont on ne sait pas expliquer pourquoi ils sont bons parce que l'algorithme est performant mais on ne sait plus auditer parfaitement l'algorithme. Il est totalement illusoire d'imaginer qu'en termes de droit, en ayant une autorité supranationale, on aurait là une équipe de spécialistes et une bande de spécialistes qui seraient capables d'aller auditer des lignes de code.
Ah non, je ne le crois pas.
Je ne le crois pas.
Mais d'ailleurs, à la limite... Je vous dis que je crois qu'on peut le faire. C'est bien ce que je dis. Non, je crois qu'on peut le faire, je crois qu'il faut qu'on le fasse. C'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, on ne peut pas réguler ce que l'on ne connaît pas. Le CSA vous régule, vous, radio, parce que tout simplement, ils sont capables de savoir ce que vous faites, donc, ils le mesurent.
Oui, mais parce qu'il y a des
liens, il faut faire la
mais
même
du coup,
chose.
À quoi ça pourrait ressembler? Si j'ai cliqué deux fois, par exemple, sur un contenu haineux, boum, je suis bloqué, je peux pas cliquer une troisième fois, par exemple.
Non, c'est plutôt de faire en sorte qu'on va dire, par exemple, il y a un certain nombre de contenus qui vont être suivis et on va savoir où est-ce qu'ils se diffusent. Et on va pouvoir se retourner sur Facebook en disant tel et tel type de contenu dont vous aviez dit que vous les empêcheriez de circuler, en fait ont circulé. Si vous voulez, on peut prendre plein d'exemples aujourd'hui à la limite le débat sur Facebook il est intéressant, il faut un petit peu le décentrer. Je vous donne un autre exemple. Aujourd'hui, si vous allez dans un supermarché et que vous cherchez du beurre. Bon, bah vous allez aller au rayon beurre, puis vous allez voir plein de marques différentes. Et aussi le beurre du supermarché. Bon, bien. Mais vous n'allez pas voir le beurre du supermarché plus qu'un autre beurre. Vous allez sur Amazon, vous allez taper un nom dans le moteur de recherche, et vous allez voir un certain nombre de résultats. Qu'est-ce qui fait que c'est tel beurre qui est mis en avant plutôt qu'un autre? Et curieusement, c'est le beurre d'Amazon qui se rafficherait en premier. Vous seriez troublé. Ben, ça, si vous voulez, c'est le quotidien. Mais et donc, la DGCCRF, elle envoie des inspecteurs dans les supermarchés pour regarder comment sont faites les têtes de gondole et l'ensemble des... Voilà. Eh bien, l'équivalent de ça aujourd'hui dans le champ des plateformes n'existe pas. Il faut que cela existe. Il y a des compétences, il y a des gens qui font de la rétro-ingénierie, il y a aujourd'hui des gens qui sont capables de vous mesurer quel est par exemple les taux de diffusion des mauvaises vidéos, fake news ou autres sur YouTube et qui sont capables de vous montrer que YouTube les favorise beaucoup trop. Cette chose-là doit être industrialisée.
On dit à peu près la même chose. Enfin, sauf si c'est pour...
Parce que moi, je crois que ça peut se faire.
Sauf si c'est pour...
Mais est-ce que ça peut se faire, pardonnez-moi de vous interrompre, est-ce que ça peut se faire à l'extérieur de Facebook ou est-ce qu'il faut forcément être à l'intérieur pour que ça marche, à l'intérieur de la boîte noire?
Mais non, je pense qu'on peut le faire à l'extérieur parce qu'il est illusoire de pouvoir imaginer que vous rentriez dans les secrets de fabrication. Un algorithme, il n'est pas public, il doit être privé. Mais c'est comme je vous dirais, une formule chimique d'un médicament, vous n'allez pas le mettre. Mais par contre, l'autorité de régulation qui va valider votre médicament, il va quand même à un moment donné regarder les effets, il va regarder les résultats des études, il va dire mais là vous avez tel pourcentage de gens qui sont tombés malades, qui ont eu des effets secondaires. Cette chose-là mesurée dans le champ des plateformes, ben c'est ce dont qu'on vient de décrire. Qui aujourd'hui mesure la diffusion des informations sur ces plateformes? Qui est capable de dire il y a telle information qui circule plus alors vous nous aviez dit que vous alliez l'empêcher?
Mais bien, personne. C'est d'ailleurs demandé dans le Digital Service Act.
Absolument.
Alors j'allais vous demander, expliquez-nous Éric Bothorel, le DSA et le DMA, donc Digital Market Act et le Digital Service Act que l'Europe est en train de monter, ça veut dire quoi? Ça va servir à quoi?
Alors en gros, pour l'ensemble des auditeurs, ça va porter les bases de régulation des plateformes, des grandes plateformes. Déjà, on va pouvoir discriminer ce qu'est une grande plateforme par rapport à une plateforme standard et on ne fixera pas les mêmes niveaux d'obligation aux grandes plateformes qu'à des plateformes intermédiaires. Mais si on devait retenir une chose, il va y avoir des éléments de régulation, des demandes de transparence, des demandes d'informations sur les efforts qui sont consacrés à, par exemple, tel ou tel aspect, je pense à la modération. Et puis derrière, des sanctions, hein, 6% du chiffre d'affaires si on n'est pas dans les clous. Je reviens sur le propos d'avant. L'idée, c'est la supervision. Enfin, je pense qu'on est assez proche, finalement, de ce qu'on a mis en place.
Donc, on revient à une espèce de grand CSA, quel que soit le nom qu'on lui donne, en fait.
Mais c'est à peu près la même approche qu'avec le monde bancaire après les crashs de 2008. On n'a pas mis un gendarme en permanence à tous les étages du bureau de la défense. Et c'est pas comme ça qu'on fait les choses. On met en place des règles, on regarde qui les respecte, qui ne les respecte pas. On est en possibilité de déclencher des audits le moment venu. Là où je dis la limite, mais peut-être qu'on se reprend pas, c'est simplement que la capacité technique à pouvoir aller auditer du code. Mais bien évidemment que les éléments de transparence sur combien de contenus vous avez supprimé, pourquoi celui-là et pas un autre, qui avez-vous mis en face pour supprimer tel ou tel contenu, est tout à fait nécessaire pour avoir une bonne compréhension finalement de la démarche qu'ils engagent pour tenter d'assainir, ou en tout cas de rendre le monde de la diffusion des idées, le monde des idées pour reprendre... le marché des idées, pour reprendre le vocabulaire de Gérald Brunner, faire en sorte que ce qui se passe, encore une fois, sur la toile, corresponde aux limites qu'on se fixe dans la vie.
Est-ce qu'il faudrait une super armée mexicaine de gens pour arriver à réguler ça, ou est-ce que ça peut se faire à petite échelle, ne disons pas ça, mais enfin, on a l'impression, en vous écoutant et quand on voit l'énormité des commentaires, des messages, etc., qu'il faudrait des milliers de personnes pour s'occuper
alors,
de ce genre
de
régulation.
Comment dire? Oui, ça, c'est pour ça d'ailleurs que de manière assez évidente, on le place au niveau européen, parce que ça demande énormément de moyens, ça c'est certain. Ensuite, moi je pense que c'est tout à fait faisable malgré tout. Vous savez, quand on a commencé à vouloir réguler la finance, alors on peut dire que ça n'a pas été suffisamment régulé, etc. Mais enfin, la finance aujourd'hui, il faut quand même savoir que c'est un des domaines, un des secteurs d'activité économique les plus régulés qui soient. C'est-à-dire que vous avez des obligations, vous pouvez aller dans les banques, vous pouvez demander leur compte, vous allez mesurer les effets, vous allez regarder en permanence ce qui se dit sur les forums et vous allez comparer ça à un cours de bourse pour savoir s'il n'y a pas eu des délits initiés. L'équivalent de tout ce qui a été construit et qui a été construit avec des ingénieurs, des mathématiciens, des financiers qui ont contribué à armer le régulateur. Il faut faire la même chose. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, dans le monde de la recherche, chez les ingénieurs, dans le monde de la technologie, il y a aujourd'hui des tas de gens qui travaillent sur ces sujets, mais pour l'instant, ils ne sont pas réunis et ne convergent pas pour armer intellectuellement et opérationnellement le régulateur.
Je sais pas si
c'est ça l'objet, à mon avis, de la loi de Breton, enfin de la directive.
Je ne sais pas s'il faut une armée, je pense qu'à certains endroits, il faut des commandos, pardon de filer la métaphore.
Oui, c'est de ma faute, d'ailleurs, c'est moi qui ai commencé,
comme c'est de votre faute, je le fais exprès. mais si on va sur le terrain, par exemple, du haut de spectre et du discours terroriste. Que constate-t-on des efforts qui ont été fournis les uns et les autres depuis des années sur les discours notamment de recrutement? C'est que le pouvoir régalien était là, la judiciarisation était là, mais il y a aussi des acteurs de la société civile. Je pense à la Katiba de Narvalos par exemple, qui est un groupe de citoyens qui agit pour signaler, détecter, regarder ces contenus. Et pour revenir à ce que disait Jean-Pierre en début de propos, je pense que c'est la somme et la conjugaison des efforts à la fois de la société civile, qui n'a pas à se substituer bien évidemment à ce que l'autorité régalienne peut faire parce qu'elle a des prérogatives qui lui sont supérieures ou différentes, mais c'est la somme de ces mobilisations-là qui feront corriger cette trajectoire qui n'a pas été corrigée, qui va l'être demain, avec des textes français, des textes européens, et puis des mobilisations ici ou là.
Et encore une fois, je vous entends, je reviens à l'une des premières questions que je vous ai posées. J'entends ce que vous dites quand on parle d'appel à la haine, quand on parle d'images de terroristes et de choses comme ça. Je ne vois pas comment ça marche et comment c'est régulable lorsqu'on diffuse, et c'est bien ce qui se passe en ce moment, des fake news par kilomètre sans encore une fois avoir un mot plus haut que l'autre. Donc il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas d'images, il n'y a rien de tout ça. Mais il y a juste une phrase qui dit n'importe quoi et qui sera ensuite diffusée à 2, 3, 4, 100 000 exemplaires ou voire plus.
Je pense quand même que c'est un peu là la clé. C'est-à-dire que, si vous voulez, jusque-là, lorsqu'on avait accès aux médias de masse, c'est-à-dire on allait à la télé ou on avait la chance d'être interviewé dans un grand journal, eh bien, il y avait en fait toute une régulation qui était existante. Vous n'étiez pas invité n'importe comment à un JT. Voilà, vous étiez connu, vous avez écrit un livre qui lui-même a été... Bon, voilà. Eh bien, les équivalences de ça n'existent pas suffisamment dans le numérique. Et effectivement, le fait que vous puissiez dire une petite bêtise à un endroit et que ça puisse se retrouver finalement avec des millions de vues sur YouTube,
ou,
par exemple...
Pardonnez-moi, ou une énorme connerie,
C'est un sujet. Ouais. Donc, il y a aujourd'hui des réflexions sur comment est-ce qu'on fait pour ralentir. Quand bien même on n'aurait pas forcément, d'un point de vue juridique, complètement la capacité de pouvoir empêcher un propos parce qu'il serait ambigu, parce que, etc., on a des moyens de ralentir. C'est aussi une des clés. Et ça... Les algorithmes peuvent tout à fait le faire, d'ailleurs, ils ont parfois commencé à le faire. Mais le problème, et je pense que ça c'est un des sujets qu'il va falloir qu'on aborde dans les années qui viennent, le problème c'est quand même le modèle d'affaires. Mmh. C'est-à-dire que quand c'est uniquement lié à l'audience, il y a quand même un vrai sujet et que ça doit demander du coup à être régulé par au-dessus.
Je suis pas persuadé que la réponse techno faille succomber en permanence. Moi j'ai des exemples très précis.
Le modèle d'affaires c'est pas techno.
Non, mais le fait de recourir aux algorithmes, des idées, enfin des souvenirs très précis de la vidéo de Christchurch qui est remontée il y a pas 15 jours, de la photo de la fosse du Bataclan qui remonte assez régulièrement. Mmh. Et là, on se laisse berner et bercer par certains qui vous disent, mais nous, on a des détecteurs algorithmiques qui permettent effectivement de flaguer l'image et de faire en sorte qu'elle ne réapparaisse plus. Bah, moi, je peux vous dire qu'en en observant un petit peu ces réseaux et ceux qui contribuent à la diffusion de ce genre d'image, eh bien, ils passent au travers de ces filtres.
On a une dernière question, c'est celle de Marie qui est à Paris dans le 20e arrondissement et qui dit, quand on voit qu'une enfant de 14 ans se suicide, par exemple, parce que est-ce que les gros responsables de Facebook, nous dit-elle, n'ont pas une vraie responsabilité. C'est extrêmement difficile d'établir la responsabilité entre l'un et l'autre, mais c'est aussi ce que dénonce Frances Hogan, notamment sur ce qu'est Instagram ou des réseaux de ce genre-là. Là aussi, on a l'impression qu'on a zéro prise, en fait.
En effet, je pense que ça pose la question, au fond, on revient à la première question de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a quand même aussi un besoin de mettre de la distance. Mmh. C'est-à-dire que quand bien même on arriverait à bien les réguler, à ouvrir les boîtes noires plus ou moins, à faire évoluer leur modèle d'affaires pour qu'ils soient un peu plus vertueux, il n'en demeurera pas moins qu'on aura toujours besoin d'enseigner ces usages et de faire en sorte qu'ils soient pas dominants, qu'on passe pas des heures sur Instagram et que même quand on y passe quelques temps, eh bien, on tombe pas amoureux de son double Instagram parce qu'effectivement, ça, c'est un problème. Et ça, c'est pas la régulation, c'est pas la directive de Thierry Breton qui changera quoi que ce soit.
Non, c'est les efforts en matière d'éducation, ça c'est clé, ça a été aussi rappelé par Jean-Pierre, ça fait partie des sujets sur lesquels il faut continuer d'investir parce que les technologies évoluent, la population qui l'utilise évolue aussi, donc il faut aller sur ce terrain-là bien évidemment, c'est une certitude.
On n'est pas à bout de ce débat, on entendra avec beaucoup de plaisir ce que dira Frances Hogan quand elle sera ici et que vous l'entendrez d'ailleurs, vous notamment, Éric Botorel. Merci beaucoup à vous deux et merci à vous tous pour vos questions.